recherches secrets en matière de guerre bactériologique et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
J'ai fait ce voyage en transsibérien parce que j'étais curieuse du transsibérien. Vous savez, la poésie des grands trains, Michel Strogoff, enfin, etc. De temps en temps, on se donnait des fêtes. Ça, on ne peut pas imaginer le goût des fêtes que les Sibériens peuvent avoir. En très très peu de jours, le wagon-restaurant était complètement vidé de tout ce qui pouvait se boire.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Lorsque De Gaulle parlait, selon une formule fameuse, de l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural, il posait la vocation de la Russie à s'affirmer d'abord comme européenne. Il s'agissait de l'URSS à l'époque, mais nous savons que le général pensait à la Russie éternelle, éternelle à ses yeux, constamment soucieuse de chercher vers l'Ouest les garanties d'une sécurité et d'une prospérité. Cette quête fut pourtant toujours ardue, toujours heurtée, depuis Pierre le Grand jusqu'à Vladimir Poutine. Une quête vouée par conséquent à être balancée en symétrie par la tentation de l'Orient jusqu'à la Chine. Dans le regard contrasté que jettent actuellement en France sur la politique étrangère de la Russie les dirigeants, les diplomates, les journalistes et les citoyens, cette hésitation entre l'Ouest et l'Est tient forcément une place singulière au fil des récentes péripéties. Quel est donc l'intérêt de l'Union européenne ? Une rigueur excessive envers une Russie dont les agissements témoignent qu'elle ne s'est pas remise du violent rétrécissement territorial de son empire antérieur ne risque-t-elle pas de la rejeter par trop vers l'Orient ? Et cela, selon une ligne incarnée concrètement et métaphoriquement par le fameux transsibérien. Pour peser cette éventualité, un des bons paramètres est celui de la mémoire qu'a pu laisser l'épopée sibérienne au long des siècles dans la sensibilité du peuple russe, avec de surcroît l'attrait passionné du Grand Nord. Je dis épopée à dessein, puisque la conquête progressive de ces immenses territoires est une aventure aussi prodigieuse que la conquête de l'Ouest par les Américains, bien qu'elle soit moins connue en l'absence de Western. L'épopée sibérienne, c'est précisément le titre de l'ouvrage éclatant que vient de publier mon invité de ce matin, Éric Heusly, professeur à l'École polytechnique de Lausanne et à l'Université de Genève. Un beau livre, ample et neuf, dont nous allons tâcher d'extraire ensemble le suc.
Le général de Gaulle est ce soir à 6000 km de Paris, au cœur de la Sibérie, à Novosibirsk. Novosibirsk, ville champignon, plus étendue que Paris, qui ne figurait pas sur la carte il y a 50 ans et qui compte à présent plus d'un million d'habitants. Dès l'arrivée à l'aéroport, où des milliers de personnes avaient réussi à s'introduire, on sentait la chaleur du climat, et le général de Gaulle avait répondu aux paroles de bienvenue qui lui étaient adressées.
Monsieur le Président, je suis profondément sensible à vos paroles d'accueil, et aussi à la pensée que vous avez eue vers le peuple français, que j'ai l'honneur de représenter ici, à Novosibirsk, en Sibérie. J'y suis à la cordiale invitation de Monsieur le Président du Présidium du Soviet Suprême et du gouvernement de l'Union Soviétique. Beaucoup d'imagination se porte vers cet immense pays où est en train de s'accomplir un des plus gigantesques efforts de mise en valeur et de progrès de tous les temps. C'est vous dire à quel point je suis intéressé et en même temps honoré de m'y trouver. Da Strasbourg, Novosibirsk. Da Strasbourg, Sibir. Da Strasbourg, Sovietski Soyuz.
Éric Heusly, bonjour.
Bonjour.
Je ne doute pas un instant que vous avez reconnu la voix du général de Gaulle. Nous sommes le 23 juin 1966, et c'était un reportage de France Inter, le journaliste étant Jacques Garat. La date n'est pas sans importance. Nous trouvons dans ce texte l'imagination, le gigantesque effort, en peu de mots, se rassemble, se ramasse devant nous, quelque chose comme une vraie légende et peut-être une réalité.
On a ici à la fois le caractère visionnaire du général, son immense curiosité et j'irais même le sens du moment. Parce que très rares sont les dirigeants occidentaux qui se sont rendus dans cette région à cette époque. Nous sommes dans les années 60, c'est le tout début de l'éclosion, et de, on va dire même de l'explosion sibérienne, la découverte du gaz puis du pétrole qui vont amener finalement l'Union soviétique, puis la Russie, à disposer de ces formidables ressources qui en font aujourd'hui la principale richesse, qui sont finalement le socle de la puissance.
C'est Kosygin le président dont tu
voilà.
parles.
Alors on entend De Gaulle là dire à la fois « Vive Novosibirsk, vive la Sibérie, vive l'Union soviétique », ce qui est pas disons une citation tout à fait anodine. Et effectivement, il est là à l'invitation de Kosygin, le leader du lobby sibérien, l'homme qui finalement a permis ce grand développement de la région.
Avec ce moment essentiel, vous le dites, où émerge la réalité et le mythe des deux ors, l'or noir, le pétrole, et l'or, on dit bleu
on
ou
dit
gris,
bleu, absolument, c'est ça, oui.
Parfois l'or gris qui est le gaz.
Exactement, c'est en réalité la redécouverte de la Sibérie contemporaine, on peut le dire de cette manière-là, puisque pendant très longtemps, le pouvoir russe, puis même le pouvoir soviétique, ont négligé cette partie de leur territoire. Et ça n'est finalement qu'après la guerre, après la nécessité impérieuse qu'il y avait de retrouver du pétrole et du gaz ailleurs que dans des régions trop proches de la frontière et donc trop exposées à d'éventuels envahisseurs, que les regards se sont tournés vers la Sibérie. Et on est là en plein dans cette histoire, une histoire finalement proche de nous encore, mais très peu connue, qui est celle de cette extraordinaire conquête du sous-sol sibérien qui commence dans l'inconnu total. Personne ne sait s'il y en a, personne ne sait où il y en a. Et c'est à ce moment-là qu'on entend le général de Gaulle mettre le point sur les i et venir à Novosibirsk, finalement, saluer cette période de la conquête. Donc je trouve qu'il y a là, il y a effectivement là un aspect réellement visionnaire de Charles de Gaulle.
Mais enfin, le rêve, l'imagination ne date pas de l'URSS, elle remonte bien loin en arrière. Le regard que depuis Moscou, depuis Saint-Pétersbourg, on jette vers l'Orient, il est empreint depuis très longtemps de beaucoup d'incertitude, de passion, d'attrait. C'est un immense territoire, il faut quand même le rappeler d'entrée de jeu, 23 fois la France.
Un célèbre conférencier américain qui a fait toute sa carrière sur la Sibérie et sur la Russie avait pour coutume de commencer ses conférences en disant à son public, imaginez simplement la partie sibérienne de la Russie, donc celle que nous appelons nous Sibérie, entre l'Oural et le Pacifique. Eh bien, on peut mettre dans cette surface-là les États-Unis d'Amérique, y compris l'Alaska. On peut y ajouter toute l'Europe occidentale. Il vous reste encore de la place pour l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. Et vous avez une image de cette immensité. Alors, on parle très souvent de la Sibérie en disant que c'est un territoire très vaste, immense. Mais il est vrai que même quand on utilise ces mots, je crois qu'on n'a pas vraiment l'idée de ce que ça représente.
5000 kilomètres sur 3000.
C'est ça, et des régions totalement différentes. Hein. On est dans le Grand Nord, on peut être dans les déserts mongols, on peut être dans des régions extrêmement prospères et fertiles, dans la partie de l'extrême-orient. On est aux confins de la Chine, on est proche du Japon, puis en même temps, après, on est tout proche de l'Oural et de l'Europe. Et toute cette immensité, en réalité, c'est aussi une partie de cette Europe russe. Malgré tout, il y a cette Russie est asiatique, mais la Russie, et là, Charles de Gaulle le dit lui-même, finalement, on est dans le prolongement de l'Europe. Là, il y a encore quelque chose de nous dans cette partie du continent.
Si vous aviez à décrire la géographie de la Sibérie en la prenant à peu près à son milieu, en allant du sud vers le nord, que diriez-vous, Eric Hössli ?
Alors, tout au sud, on est dans les monts Sayan, des noms qui sont proches de la frontière mongole, là où les deux des très grands fleuves sibériens prennent leur source, l'Ob et le Yenissié, donc des régions de haute montagne, avec des steppes arides qui sont où on trouve aussi bien des chameaux que des moutons. Et puis ensuite, on descend vers le grand bassin des fleuves sibériens, avec d'abord des grandes plaines, des plaines fertiles, qui sont aujourd'hui encore très fortes productrices dans l'agriculture russe. Et ensuite, progressivement, on arrive dans la taïga, la toundra.
La taïga avec ses forêts de bouleaux et ses marécages.
Bouleaux, pins et marécages, effectivement, puisque 60% à peu près du territoire russe en général est donc encore bien davantage en Sibérie. est formé de ce qu'on appelle le pergélisol, c'est-à-dire d'un sol perpétuellement gelé qui
permafrost,
fond pendant l'été.
Permafrost,
l'expression britannique ou anglaise, anglo-saxonne. Et donc on a effectivement un sol qui fond en surface pendant l'été, créant du coup un univers de marécages, de lacs et de rivières, un espace totalement infranchissable.
Et puis plus au nord, la toundra.
Plus au nord encore la toundra, mais toujours marécageuse jusqu'aux rives de l'océan Arctique.
C'est une sorte de tapis de lichen, de mousse.
C'est ça, avec parfois, dans les mois de juin, juillet, d'extraordinaires tapis de fleurs, des plantes que les rennes adorent. Donc on a dans les petits sous-bois, puisque c'est finalement des petits buissons, des petits arbres qui sont relativement malingres. Et on a sur ce sol ces tapis de mousse dans lesquels on s'enfonce, mais qui encore une fois sont très difficiles à franchir si on voulait s'y aventurer.
On a peine à restituer ces moments, 16e, 17e siècle, où la Sibérie, y compris pour la Russie, apparaissait comme un univers infranchissable, en tout cas très, très mystérieux. Et puis il y a des personnages qui, comme toujours, viennent se porter en avant, notamment le grand Lomonossov. Dites-nous un mot de Lomonossov, si vous voulez bien.
Alors Lomonossov est un peu le Léonard de Vinci russe, donc première grande génération de savants qui vont venir peupler la nouvelle Académie des sciences que le tsar Pierre le Grand a fondée sur le modèle de l'Académie des sciences française. Lomonossov va être à la fois un académique tous azimuts. Il est aussi bien physicien que météorologue, que même linguiste. Mais il est aussi passionné par le grand défi que représente à l'époque la Sibérie et le Grand Nord. Il va suivre avec beaucoup d'attention plusieurs des expéditions. Il va être l'un des premiers à déchiffrer les résultats de ces expéditions qui sont tenues à l'époque secrets par peur des puissances européennes. Et il va développer toute une théorie de l'Arctique et du passage de ce qu'on appelle aujourd'hui la route maritime du Nord entre l'Europe et la Chine. Donc on a c'est les premiers soubresauts, mais jusque-là, vous avez entièrement raison de le souligner, en réalité, et nous sommes là au XVIe siècle, au début du XVIe siècle, alors que les Occidentaux ont déjà une image assez précise de ce qu'est l'Amérique, on ne sait rien de cette Sibérie. Ni les Russes, ni les Européens ne savent grand-chose de cette Sibérie. On a grosso modo que quelques souvenirs diffus ou rumeurs qui sont celles, en fait, héritées des récits de Marco Polo, qui lui a passé bien plus au sud. Pour le reste, c'est un peu étrange quand même de se dire qu'on est là, disons, même à la moitié du XVIe siècle, on n'a encore aucune idée de ce qui peut nous attendre de l'autre côté de l'Oural.
Avec de grandes taches blanches, du coup, sur les cartes. Avant de quitter Lomonossov, on peut évoquer son livre fameux, La courte description des différents voyages sur les mers septentrionales. On est en 1764, c'est le temps où les hommes des Lumières de France vont aussi vers le nord, Maupertuis et d'autres se déguisent en Lapons. Lui, il regarde vers l'est et cet essai se termine de la façon suivante. De cette façon, la façon qu'il suggère, aller vers l'est, la route et l'espoir seront fermés aux étrangers, mainmise par la Russie déjà, la puissance russe grandira par la Sibérie et l'océan du Nord et s'étendra jusqu'aux principales possessions européennes en Asie et en Amérique. Il faut dire qu'en effet, on va jusqu'à l'Alaska.
Tout à fait. En 1733 et jusqu'à vers 1760, c'est le temps de l'inventaire par la Russie de ces nouveaux territoires et des grandes expéditions qui vont en réalité en avoir la charge. Lorsqu'on lit aujourd'hui le cahier des charges, finalement, qui a été imposé par le tsar, puis ensuite la tsarine, puisque ces expéditions vont se succéder en plusieurs années, au grand chef de ces expéditions, qui est Vitus Bering, le Danois, eh bien, on est évidemment frappé de stupeur, parce qu'on lui demande rien d'autre et rien de moins que cartographier des milliers de côtes de l'Arctique que personne n'a encore pu parcourir. Donc on est dans la banquise, personne n'a réussi même à les suivre, et on lui demande non seulement de les suivre, mais de les cartographier. On lui demande de cartographier également l'ensemble du territoire sibérien. On lui demande d'aller à la rencontre de tous les peuples qui s'y trouvent, de faire la traduction de leur langue, de relater leur histoire, d'aller jusqu'à la Chine, de prendre langue avec la Chine pour commercer, d'aller plus loin jusqu'au Japon, d'ouvrir le fameux verrou japonais pour également permettre à la Russie de commercer, et plus loin encore, d'aller traverser le Pacifique à la découverte de l'Alaska, qu'on soupçonne encore, parce que à cette époque-là, on n'est pas certain encore que l'Amérique ne soit séparée de l'Asie. Et le tsar demande expressément à Bering d'aller planter le drapeau russe le plus loin possible sur ce continent américain, de manière à éviter qu'évidemment d'autres, dans le sens inverse, en remontant la côte américaine, viennent eux s'établir en Sibérie. Donc c'est une tâche formidable qu'on demande à Bering. Il va mettre deux grandes expéditions. La première, il part en 1725. Il va passer 15 ans de sa vie, grosso modo, jusqu'à la fin de sa vie, en réalité, jusqu'en 1742. Il va en réalité mettre toute son énergie et ses ressources à la découverte de cet immense territoire. Il va aller jusqu'en Amérique.
Sa gloire, c'est qu'il y ait aujourd'hui un détroit de Bering, effectivement. Voilà. Alors, un gigantisme de l'ambition intellectuelle et géopolitique est à la mesure du gigantisme des territoires.
Il y a à la fois la vision géopolitique, il y a la curiosité, il y a une passion scientifique. Lorsqu'on lit les récits de tous ces scientifiques qui ont accompagné Bering dans cet effort d'inventaire, on est vraiment fasciné par la capacité qu'ils ont à s'intéresser à tout. C'est une pensée universelle. On s'intéresse aussi bien aux plantes que l'on rencontre qu'au tumulus qu'on va fouiller pour trouver les ancêtres des peuples sibériens actuels. Et on s'intéresse également à la langue, on s'intéresse aux plans des premières bourgades que l'on rencontre, mais également effectivement à l'ethnologie, à ce qui va être l'ethnologie, c'est-à-dire notamment à la rencontre des peuples sibériens, et puis ensuite de ceux qu'on va découvrir en Alaska, même brièvement.
À côté de Bering, vous avez le grand personnage auquel vous faites un sort dans votre beau livre, Erik Oehsli, c'est Steller.
Oui, un Allemand, un jeune Allemand, tout à fait emblématique de cette génération de scientifiques. Il a à peine 30 ans. Les Russes ont recruté l'élite intellectuelle de leur temps, des Allemands, des Français, des Italiens, des Suisses, qui n'ont pas finalement de carrière devant eux dans leur pays d'origine et qui vont servir la science en Russie. Et c'est dans ce petit groupe de scientifiques que les Russes vont chercher les quelques découvreurs de la Sibérie. Parmi eux, ce jeune Allemand, Steller, qui est, je pense qu'on peut le dire sans emphase, c'est un génie, c'est un véritable génie. Il est capable de sentir, de pressentir, on va dire, un certain nombre de vérités scientifiques, qu'elles soient encore une fois de nature botanique, qu'elles soient de nature zoologique ou même ethnologique. Donc il a un esprit complètement ouvert, mais c'est en même temps un personnage qu'on qualifierait aujourd'hui, je dirais, de caractériel, insupportable. Tous ses compagnons le disent, c'est monsieur je sais tout, il est là en train de donner des conseils même aux marins les plus expérimentés. Donc il est détesté de son environnement en général et de son entourage, mais malgré tout, lorsqu'il va aborder l'Alaska avec Bering, le premier contact de l'Européen avec cette Amérique de l'extrême nord, par l'ouest grosso modo, c'est une deuxième découverte de l'Amérique, mais cette fois-ci par l'ouest, eh bien il va sur une plage en quelques heures, réussir un exploit extraordinaire. Et il faut juste raconter cet épisode parce qu'il est tout à fait emblématique du personnage. Il arrive avec Bering long des côtes de ce qui va être appelé Alaska. Et puis, on doit faire la première courbée d'eau, donc le premier contact physique avec le continent. Steller veut absolument descendre sur la plage. Et Bering, d'abord, qui connaît le personnage, craint qu'il ne remonte pas à bord, donc veut l'interdire de descendre. Il y a un esclandre sur le pont. Finalement, Steller obtient le droit de descendre et il est dans cette chaloupe. Et on a cette description par ses compagnons de voyage. Il n'est pas encore arrivé sur la plage, la chaloupe n'a pas encore touché le sable, que lui a déjà sauté dans l'eau. Et pendant les heures qui suivent, il va courir. Il va courir sans cesse sur cette plage pour simplement rassembler toutes les connaissances qu'il peut sur ce nouveau territoire. Il va, en réalité, pendant 6 heures de course, il va découvrir 160 espèces jusque-là inconnues
en
de la science européenne. C'est une découverte scientifique toutes les 2 minutes 30.
Peut-être comprend-on mieux cette aspiration à la découverte des mers à l'autre extrémité du continent si l'on rappelle que pendant très longtemps, la Russie a été soucieuse d'accéder précisément aux mers, s'est sentie enfermée.
Alors, il y a effectivement toute une partie de cette histoire qui s'explique par la volonté de la Russie, qui est une puissance européenne, au moment où cette expansion vers l'Est va démarrer. Cette Russie européenne cherche effectivement à déboucher sur la mer pour commercer. Et en fait, son objectif, c'est le commerce avec l'Europe occidentale, d'abord avec les pays de la péninsule ibérique, qui sont les grandes puissances de ces débuts du XVIe siècle, puis ensuite la Grande-Bretagne, la Hollande et la France. Ensuite, on cherche bien sûr à une fois, à prospérer vers l'Est et aller à la rencontre de la Chine et du Japon. Donc cette volonté, si vous voulez, de commercer, elle est au cœur de l'expansion russe.
Les mers du Nord, les détroits au Sud.
Oui, dans l'histoire sibérienne, ce qui est assez curieux, c'est qu'on n'est pas du tout dans une volonté d'expansion de l'État. On pourrait s'imaginer assez naïvement que des militaires cherchent à avancer vers l'Est, à conquérir des territoires nouveaux. Pas du tout. Pas du tout. Ce qui est au fond de cette conquête, c'est la volonté d'individus, d'entrepreneurs, souvent au départ des chasseurs-trappeurs, puis ensuite des grandes familles de marchands qui vont s'établir en Sibérie et qui vont conduire cette conquête, d'aller plus loin vers l'Est, souvent à la recherche de la fourrure, et ensuite plus loin, effectivement, on va aller jusqu'à l'Amérique pour aller chercher l'or, pour aller chercher en général le commerce avec la Chine, le thé, la porcelaine, etc. Donc fondamentalement, ce mouvement, il est porté par des entrepreneurs et pas du tout par l'État.
Ce qui explique que la progression vers l'Est se passe souvent de façon linéaire. Mais avant d'évoquer le transsibérien, qui va métaphoriquement représenter cet effort et cette linéarité, de fait, je voudrais vous faire entendre un extrait d'une œuvre qui a beaucoup compté pour beaucoup d'adolescents. Je pense qu'elle compte toujours pour rêver la Sibérie en Europe avant le chemin de fer. C'est naturellement Michel Strogoff. Un extrait de Michel Strogoff de Jules Verne. Le livre est de 1876, c'est-à-dire peu de temps avant l'installation du chemin de fer. C'est une lecture de Guylaine Ferré dans L'échappée belle de la très chère Marie-Hélène Freissé et Caroline Lachowski sur France Culture le 26 février 1993.
Le 30 juillet, à 9h du matin, Michel Strogoff dépassait la station de Touroumov et se jetait dans la contrée marécageuse de la Baraba. Les voyageurs, obligés de traverser la Baraba pendant l'été, ont le soin de se munir de masques de crin, auxquels se rattache une cotte de maille en fil de fer très ténu qui leur couvre les épaules. Malgré ces précautions, il en est peu qui ne ressortent de ces marais sans avoir la figure, le cou, les mains criblées de points rouges. L'atmosphère semble y être hérissée de fines aiguilles, et on serait fondé à croire qu'une armure de chevalier ne suffirait pas à protéger contre le dard de ces diptères. C'est là une funeste région que l'homme dispute chèrement aux tipules, aux cousins, aux maringouins, aux thon, et même à des milliards d'insectes microscopiques qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Mais si on ne les voit pas, on les sent à leurs intolérables piqûres auxquelles les chasseurs sibériens les plus endurcis n'ont jamais pu se faire. Le cheval de Michel Strogoff, tanné par ces venimeux diptères, bondissait comme si les molettes de 1000 éperons lui fussent entrées dans le flanc. Pris d'une rage folle, il s'emportait, il s'emballait, il franchissait verste sur verste, avec la vitesse d'un express, se battant les flancs de sa queue, cherchant dans la rapidité de sa course un adoucissement à son supplice. Il fallait être un aussi bon cavalier que Michel Strogoff pour ne pas être désarçonné par les réactions de son cheval, ses arrêts brusques, les sauts qu'il faisait pour échapper à l'aiguillon des diptères. Devenu insensible, pour ainsi dire, à la douleur physique, comme s'il eût été sous l'influence d'une anesthésie permanente, ne vivant plus que par le désir d'arriver à son but, coûte que coûte. Il ne voyait qu'une chose dans cette course insensée, c'est que la route fuyait rapidement derrière lui.
On se rappelle, Eric Huxley, les aventures de Michel Strogoff. Cet univers restitué par Jules Verne depuis chez lui vous paraît bien vu?
Oui, et ben disons, on est dans la période où effectivement la Sibérie se met à fasciner également le public francophone. Et je crois que rares sont les francophones qui vont en Sibérie sans avoir eu quelque part cet aiguillon de Michel Strogoff. De manière assez curieuse d'ailleurs, le personnage n'est pas du tout célèbre en Russie. Hein, à Irkoutsk, je me souviens très bien de la première fois où je suis arrivé, en discutant avec mes collègues russes, je leur ai dit « Ah, voilà, c'est la ville de Michel Strogoff ». Ils m'ont dit « De qui ?» Voilà. Donc voilà, c'est un grand héros de la littérature française, mais pas du tout connu du côté russe. Mais néanmoins, il a joué un rôle essentiel et il est représentatif de cette période où on est en France déjà, fasciné par le développement de cette Sibérie qu'incarne à cette époque-là un très jeune gouverneur général qui est Nikolaï Mouraviev.
Cette histoire est vraiment scandée par un certain nombre de biographies remarquables. Nous en avons vu surgir tel ou tel. Mouraviev mérite aussi d'être dans cette liste. remarquable.
Absolument. Finalement, cette histoire, elle nous révèle énormément de personnalités tout à fait extraordinaires, flamboyantes, ignorées, je dirais, du public, et Mouraviov est certainement l'une d'entre elles. Il est nommé gouverneur général de ce nouvel espace sibérien, on est en 1847, et déjà sa nomination est une grande surprise, parce qu'il vient d'une famille relativement séditieuse, plusieurs de ses cousins ont disparu dans le grand complot contre le tsar en 1825, donc le nom est un petit peu sulfureux, et dans les cercles conservateurs, on est extrêmement étonné de voir le tsar nommé dans ce nouveau territoire un personnage qui est à la fois porteur d'un nom, encore une fois, un peu sulfureux, et de l'autre côté, un très jeune homme. Et il va être, lui, habité par une nouvelle mission. Cette mission, c'est d'amener la Russie, depuis Irkoutsk, où il est gouverneur général, jusqu'au Pacifique. Jusqu'à l'Amour, jusqu'au fleuve Amour, et d'aller finalement venir chatouiller un peu l'Empire mandchou, l'Empire chinois, pour saisir ces fameuses terres de l'Extrême-Orient.
L'Amour, c'est ce grand fleuve qui va servir désormais de frontière.
Voilà.
On peut préciser d'ailleurs que, contrairement à ce que certains croient, ce n'est pas une traduction, l'Amour, d'un terme du lieu. Il s'appelle vraiment l'amour, ce qui nous
frappe. En russe, on l'appelle amour, mais effectivement, sans que ça ait cette connotation, on va dire, affective. Donc, il est le Mississippi, si vous voulez, de cette partie du monde. Et on assiste, dans cette période, à la volonté d'un homme, Nikolaï Mouraviov, gouverneur général, d'aller conquérir cette partie du monde, on va dire un peu au nez, à la barbe de l'Empire chinois, parce qu'il est convaincu que la Chine, devenue très faible, qui vient de subir, on peut dire non seulement les coups, mais le viol de la part des puissances occidentales lors des deux guerres de l'opium, que la Chine va en réalité être occupée par les Occidentaux et qu'ils n'auront de cesse ensuite de remonter les fleuves, comme ils l'ont déjà fait en Chine, et de remonter par conséquent également l'amour pour entrer et pénétrer en Sibérie. Donc il veut s'en emparer avant que les grandes puissances de l'époque puissent le faire à la place de la Russie.
C'est un peu plus tard qu'un écrivain très fameux, Eric Koestly, vient sur les bords de l'amour et écrit à sa famille pour lui donner ses impressions. Cet écrivain, c'est Tchekhov.
20 juin 1890, sur l'Yermak. Bonjour, chère famille. Enfin, je puis quitter mes lourdes bottes boueuses, mon pantalon usé et ma chemise bleue luisante de poussière et de sueur. Je puis me laver et m'habiller de façon humaine. Je ne suis plus en Tarentas, mais dans une cabine de première du bateau Yermak, qui fait le service de l'amour. J'étais tellement habitué à circuler sur la grande route que je me sens tout drôle. Je ne crois pas ne plus être en Tarentas et ne plus entendre la clochette de la Troïka. Il me semble étrange de pouvoir, en me couchant, étendre mes jambes tout de leur long et de n'avoir pas la figure couverte de poussière. « 23-26 juin 1890, de Pokrovskaya à Blagovetchensk. L'amour est une région extraordinairement intéressante et bigrement originale. Ici règne une vie haletante comme on n'a pas idée en Europe. Elle, c'est-à-dire cette vie, me rappelle ce qu'on raconte sur la vie américaine. Les rives sont tellement sauvages, exotiques, luxuriantes qu'on a envie de rester vivre ici jusqu'à la fin de ses jours. » Je vous écris ces dernières lignes alors que nous sommes déjà le 25 juin. Les trépidations du vapeur m'empêchent d'écrire. Le vapeur a repris sa route. J'ai déjà parcouru 1000 verstes sur l'amour et j'ai vu des millions de paysages extraordinaires. D'enthousiasme, j'en ai la tête qui tourne. Cette nature est une merveille. Et comme il fait chaud, comme les nuits sont douces. Le matin, il y a du brouillard. Mais c'est une brume chaude. J'observe les rives à la jumelle et je vois un foisonnement fabuleux de canards, d'oies, de grèbes, de hérons et toutes sortes d'animaux à long bec. C'est ici qu'il faudrait louer une datcha.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
11 juillet 1890, Sakhalin. Suis arrivé. Entier. Télégraphié Sakhaline. Tchekhov.
Sakhaline, Eric Koestli, c'est la grande île qui est à l'extrême orient de la Russie. J'ai tenu à vous faire entendre cette archive parce qu'elle me paraît contenir bien la sensibilité nourrie de passion, de fantasmes, de mystères qui marque l'ambivalence du regard de la Russie d'Occident vers la Sibérie. Cette Sibérie à quoi nous consacrons cette émission ce matin.
Oui, Tchekhov fait à ce moment-là une sorte de pèlerinage vers Sakhaline. Hein. Son dessin premier, c'est d'aller raconter le monde parallèle qui est celui des bagnes. C'est à l'époque un mouvement littéraire extrêmement présent en Russie, très important.
Nous y viendrons dans un instant.
Oui, mais ce qui est fondamental dans cet extrait aussi, c'est qu'on y sent la formidable fascination de l'Amérique. C'est-à-dire que cet extrême-orient sibérien représente pour un russe européen, comme Tchekhov, et pour tous ceux de sa génération, une sorte de formidable espoir d'une autre Russie, d'une Russie plus libérale, plus entreprenante, plus ouverte sur le Pacifique. Donc on est, si vous voulez, dans la symétrie absolue du grand mouvement qu'on peut voir en Amérique à ce moment-là vers la Californie. Et on va y voir naître beaucoup de passions, beaucoup de gens vont se mettre à réfléchir à un avenir différent pour la Sibérie, Bakounine et d'autres, mais même le général gouverneur dont on parlait tout à l'heure, Mouraviev, lui-même revendique plus d'autonomie, plus de présence pacifique pour cette Russie. On va même y voir la chimère de la fondation d'un mouvement autonomiste avec quelques éléments même indépendantistes et l'idée d'États-Unis sibériens.
Même le grand socialiste en exil, Alexander Tsen, oui, salue les formidables potentialités d'une Sibérie devenue un jour démocratique.
C'est ça. C'est l'Amérique, non pas dans le sens géopolitique qu'on peut avoir nous maintenant en tête, c'est l'Amérique comme rêve. C'est l'Amérique démocratique, républicaine. L'Amérique qui vient de vaincre également la superpuissance coloniale qui était la Grande-Bretagne. Et dans l'esprit des jeunes Russes qui vont en Sibérie à ce moment-là, on va voir arriver une nouvelle génération d'ingénieurs, de penseurs, de jeunes militaires qui viennent peupler cette Sibérie dans cet esprit-là. Et ils vont y faire naître toutes sortes de grands projets technologiques. Un d'entre eux est censé relier justement l'Amérique à la Russie.
Et nous y voilà, nous
fabuleux.
Y voilà.
Non, on n'y est pas encore, parce que ce n'est pas celui auquel vous pensez. C'est le projet d'un télégraphe. L'idée est de rallier finalement New York à Londres par un télégraphe qui traverserait les États-Unis, contournerait le Pacifique par le nord, traverserait toute la Sibérie. Donc c'est ce genre de projet tout à fait incroyable qu'on va voir naître, qui vont durer quelques années. Et ensuite, bien sûr, le grand projet du siècle, le grand projet ferroviaire, celui du Transsibérien.
Alors il faut que nous nous attardions un moment, Eric Koestli, sur le Transsibérien, tant il représente à la fois en termes concrets et du côté de l'imagination quelque chose d'essentiel. Et puis cette linéarité qui caractérise cette marche vers l'est de la Russie d'Occident, cette linéarité qui est très, très, très importante et que nous avons déjà rencontrée.
Oui, la curiosité m'a amené à essayer de découvrir finalement quel était l'homme qui a eu cette idée. Parce que des projets de ce type-là, finalement, on n'en voit pas beaucoup pendant un siècle.
Encore un héros que vous faites surgir.
Tout à fait, tout à fait. Oui, un héros, un personnage aussi qui est bien entendu n'est pas en noir et blanc. Hein, il est dans toutes les nuances du gris, comme tous les personnages de l'histoire. Mais finalement, qui est celui qui a eu l'idée de traverser le continent avec une voie de chemin de fer?
Je vous laisse nommer.
Il s'appelle Bogdanovich. Bogdanovich est en réalité, c'est on va dire un colonel de la protection civile, s'il fallait en faire un parallèle avec aujourd'hui. Il est envoyé par son ministère, il est employé du ministère de l'Intérieur, il est envoyé dans les régions européennes de Russie où la famine frappe chaque année. Et la solution qu'il entrevoit, c'est de dire finalement, au lieu d'essayer d'avoir des mesures de protection dans la région, il faut qu'on amène des céréales depuis la Sibérie vers la Russie d'Europe. Donc là, encore une fois, on est des fois un petit peu surpris par le cours de l'histoire. On aurait pu naïvement s'imaginer que le Transsibérien était un projet pour aller vers l'Est. Non, l'idée originelle, c'est en réalité d'amener les céréales sibériennes vers la Russie d'Europe et éventuellement un peu plus loin, vers les grands ports, pour les exporter.
Auparavant, ça aurait été les zibelines, la fourrure des zibelines.
Tout à fait, mais qui va persister, puisque le commerce de la fourrure a été central dans toute cette histoire sibérienne. Mais là, dans le Transsibérien, cette idée de Bogdanovich, c'est effectivement de relier finalement la Sibérie à la Russie mère pour lui amener quelque part ses denrées, on peut dire coloniales, si vous voulez, en tant que telles. Et cet homme va en réalité vouer voué l'ensemble de sa vie à ce projet. Il va multiplier d'abord les esquisses, il va devenir finalement le lobbyiste des grandes régions sibériennes et des grandes villes qui naturellement sont appâtées par ce projet. Et pendant plus de 20 ans, on va le voir se battre dans l'administration, dans la bureaucratie et dans la presse également russe de l'époque pour installer son projet de transsibérien.
Un tourbillon vraiment de lobby, vous le dites, et de passion, d'intérêt entremêlé dont vous restituez toute la force, c'est presque un roman.
Bah, imaginez-vous que vous soyez responsable d'une ville sibérienne, on vous parle tout d'un coup de remplacer la route défoncée pendant de nombreux mois, qu'est le tract, la fameuse grande piste sibérienne, par une voie ferroviaire. Et vous savez très bien que si vous n'êtes pas retenu par le projet et que vous n'êtes pas situé sur le trajet que va emprunter le futur train, votre ville est morte, ou en tout cas, elle est amenée à décliner. C'est ce qui va se passer d'ailleurs, y compris pour la capitale sibérienne de l'époque, qui est Tomsk. Tomsk est la plus grande ville de sibérienne à l'époque. Elle ne peut pas imaginer que le transsibérien l'évite. Et pourtant, c'est ce qui va arriver. Et Tomsk, aujourd'hui, est une ville provinciale, un peu éloignée à 100 km de la ligne. Elle va finalement décliner, stagner, alors que d'autres vont naître. On revient à Novosibirsk, qu'évoquait le général de Gaulle au début de cette émission. Novosibirsk, qui est la fille du transsibérien. Elle est née du transsibérien. Elle est née du passage d'un fleuve et du hameau de la bourgade qui va finalement se développer à cet endroit.
Il a fallu plusieurs décennies pour que le transsibérien se concrétise entre la fin du 19e siècle et le début du 20e. Le transsibérien s'achève pratiquement avec la chute des Romanov.
Oui, il va être achevé en 1916. Et durant tout le processus de construction, on va voir, sa finalité modifiée. C'est un train qui finalement, comme je l'ai dit au départ, a été imaginé pour amener des denrées céréalières vers la Russie d'Europe. Peu à peu, les militaires vont se rendre compte qu'ils doivent se rendre et pouvoir se rendre rapidement jusqu'aux confins chinois parce qu'une fois de plus, ils ont très peur de voir les Britanniques surgir depuis la Chine et menacer la Sibérie. Et en fin de compte, c'est le Japon qui va apparaître comme le véritable rival dans la région.
Après la grande défaite de la Russie devant le Japon, défaite maritime qui a énormément marqué les sensibilités dans toute l'Europe et évidemment en Russie en particulier.
Voilà, et qui est, cette guerre est provoquée par le transsibérien parce que les Japonais voyant la voie en voie d'achèvement vont précipiter leur attaque, une attaque surprise contre le port militaire de Port Arthur à une époque où la Russie est encore incapable d'amener des renforts jusqu'au front rapidement. Elle a une rupture, si vous voulez, de charge autour du Baïkal et les Japonais vont choisir précisément le moment le plus difficile pour les Russes, c'est-à-dire la fin du mois de janvier, dans un moment où on ne peut pas encore traverser le lac sur la glace, mais on ne peut pas le contourner non plus pour attaquer Port Arthur. Donc le transsibérien, finalement, déclenche cette guerre avec le Japon que les Russes voulaient essayer d'éviter grâce à sa présence.
Et qui aboutit à la grande défaite navale de Tsushima en 1905.
C'est ça, exactement. Et qui va ensuite précipiter le cours des révoltes 1905-1917 et la suite.
Et désormais, le transsibérien est installé dans les sensibilités de l'Europe occidentale. On rêve au transsibérien, un certain nombre de voyageurs l'empruntent. Je me rappelle que Louis Marin, qui a été un des grands leaders de la droite traditionnelle en France dans l'entre-deux-guerres, avait très jeune pris le transsibérien. Il le racontait volontiers. Il disait même qu'on s'arrêtait de temps en temps quand il n'y avait plus de nourriture, qu'on donnait un fusil aux voyageurs pour qu'ils aillent eux-mêmes chasser un gibier qui ensuite pourrait les nourrir.
Le pouvoir russe a très rapidement compris l'attrait extraordinaire que ce train représentait sur les esprits occidentaux. Encore avant Marin, il faut citer le moment clé qui a été celui de l'exposition universelle de Paris en 1900, où une bonne partie du pavillon russe, au Trocadéro, était consacrée à une sorte de simili transsibérien. Donc vous entriez dans le pavillon, vous preniez un ticket qui vous donnait droit à un repas au wagon-restaurant du transsibérien. Et puis, alors qu'on secouait légèrement le wagon pour vous donner le sentiment de progresser à travers les immensités sibériennes, vous pouviez voir défiler par les fenêtres des paysages peints de plusieurs centaines de mètres qui vous donnaient l'illusion d'assister finalement au spectacle sibérien.
Illusion vraiment, puisque le transsibérien n'existait pas encore.
En 1900, il était juste avant, il y avait des tronçons qui étaient en fait existants, mais on n'avait pas effectivement complété encore la ligne. Et donc, lorsque vous arriviez au terme du repas, il y avait une petite sonnette et vous descendiez accueilli par un Chinois sur le quai, le faux quai du Trocadéro. Et c'est cette image du transsibérien extrêmement puissante qui s'est installée dans les esprits esprit, et comme vous le dites, qui règne encore. On peut dire que le transsibérien aujourd'hui est presque synonyme de cette partie du monde.
Un voyageur parmi d'autres. Voici le témoignage de Robert Guillain dans Les Mémoires du siècle sur France Culture, le 30 juillet 1987. C'est une émission de Thierry Grillet. Je rappelle que Robert Guillain a été un prestigieux correspondant en Asie du Monde, du journal Le Monde, notamment en Chine, et il a suivi la guerre de Corée également. Il évoque ses souvenirs qui remontent en l'occurrence à 1937.
C'était pour moi absolument passionnant pour beaucoup de raisons. D'abord pour la traversée étonnante de ces paysages sans fin, ces paysages sans échelle où tout est comme un océan de steppes vide, de localités très très pauvres. Ça commençait déjà en Pologne, la grande pauvreté, mais à partir de la Sibérie, ça devenait, enfin en entrant en Russie de l'Ouest, puis passer l'Oural, c'était extraordinairement misérable, avec des gares en bois tout à fait pauvres, des paysages de boue, presque pas de forêt, presque pas d'arbres, et des gens extrêmement pauvres. Et puis, de gare en gare, à partir du passage de l'autre côté de l'Oural, on voyait dans les gares, en attente, une espèce de horde extraordinaire de misérables russes blancs. J'ai vu plus tard des misérables ou des coolies ou des clochards chinois, mais là c'était des populations russes en grand nombre qui étaient dans un état de misère absolument incroyable. Ils étaient affalés, couchés autour des gares, en attente d'on ne sait pas quoi, sans garde, sans rien, et l'air épuisé, campant au milieu de paquets fantastiques qui n'avaient absolument pas de forme. C'était des baluchons extraordinaires, des ficelages, des étoffes recousues, etc. Eux-mêmes terriblement mal vêtus, et l'hiver commençait, il faisait carrément froid. J'ai compris seulement beaucoup plus tard que c'était tout simplement le goulag, ou les résultats, ou les retombées du goulag.
C'était donc Robert Guillain, un extrait d'une émission de Thierry Grillet, Mémoire du siècle, sur France Culture, le 30 juillet 1987. Éric Oesli, voilà qu'arrive la grande question du bagne, qui remonte loin en arrière. D'ailleurs, il y a eu un bagne des tsars. La tsarine Elisabeth avait aboli la peine de mort en 1763 pour la remplacer par le bannissement en Sibérie. Et c'est la face très sombre de cette histoire de la Sibérie que nous évoquons ce matin.
Oui, très longtemps, la Sibérie a servi finalement aux détenteurs du pouvoir russe, puis soviétique, finalement de dépotoir social, pour non seulement pour les prisonniers politiques qu'elle voulait éloigner, et on cherchait toujours à les mettre finalement le plus loin possible. Donc d'abord, ça a été juste l'Oural. Puis finalement, on s'est retrouvé au-delà du Baïkal pour finir à Sakhalin, où Tchekhov tentait d'aller retrouver ses bagnards. Et finalement, vers le Grand Nord, à l'époque soviétique. Il y a toujours eu cette double finalité, d'une part éloigner des éléments dérangeants, asociaux, donc qu'il ne faut pas, je dirais, restreindre à des opposants politiques.
Droits communs aussi.
Des droits communs, des petits criminels, des petits délinquants, qui formait l'essentiel des bataillons de déportés. Et puis on avait l'aristocratie, si vous voulez, des bagnards, qui étaient les complotistes, les décembristes notamment, par exemple.
Les décembristes, rappelez-nous ce que c'était.
Les décembristes, c'est finalement les participants à un complot contre le tsar en 1825, qui ont tenté de profiter finalement d'une transition entre un tsar et l'autre pour prendre le pouvoir, enfin plutôt modifier le cours du pouvoir en obtenant une monarchie constitutionnelle.
Donc on les a exilés au lieu de les...
On en a pendu quelques-uns, et on a exilé les autres, effectivement. Ça a été une saga extraordinaire, parce que parmi les femmes de ces décembristes se trouvaient un certain nombre d'étrangères, notamment des Françaises, qui ont suivi leur mari en déportation, et qui donc, là aussi, ont été l'objet d'extraordinaires récits, aussi bien de poèmes en français, mais bien entendu de romans, dont celui d'Alexandre Dumas. Donc il y a une légende, si vous voulez, de ce bagne qui s'est installée dans l'esprit des Occidentaux et qui va être ensuite carrément ancrée par le travail d'un journaliste américain. On est à la fin du 19e siècle.
Kennan.
Kennan va être l'homme qui finalement a placé dans nos esprits, si vous voulez, le signe égal entre Sibérie et bagne. Il va faire une enquête extraordinaire du point de vue journalistique de plusieurs mois. Il va visiter, grâce au blanc-seing qu'il a obtenu des autorités, on peut s'imaginer à l'époque, ça devait être quelque chose de très particulier, tous ces grands bagnes, y compris les plus durs, en Sibérie. Et il va y ramener un livre qui va précisément poser cette équation. On peut dire que ce livre de Kennan, il est à la Russie des bagnes ce que la case de l'oncle Tom était à l'abolition de l'esclavage.
Ou ce que le reportage d'Albert Land sur le bagne de Cayenne a pu représenter dans l'opinion française pour l'entre-deux-guerres.
Absolument, absolument. C'est vraiment un ouvrage fondateur et qui va bouleverser l'opinion américaine d'abord, puis européenne dans le sillage et créer dans nos esprits, encore une fois, cette proximité entre Sibérie et bagne. Et puis, bien sûr, elle va être développée ensuite par l'apparition du goulag. Alors on change d'échelle hein, avec le goulag. On ne parle plus cette fois-ci de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers de déportés. On parle de 2 millions en moyenne qui sont là, dans le Grand Nord, en Sibérie, c'est-à-dire dans les endroits où finalement il est impossible de trouver de la main-d'œuvre. Et le bagne soviétique, qu'est le goulag, doit pallier à ce déficit de main-d'œuvre et il est chargé de construire pour le régime tous les grands projets de cette région.
D'où vient le mot goulag ?
Le goulag est une abréviation d'un acronyme de Direction Générale des Camps. Donc on a le mot lager, lag qui est à la fin, et qui signifie donc Administration Générale. Et il date du début des années 30, lorsque l'administration est mise en place par Staline.
Pour faire entendre quelque chose comme la tonalité de cette immense barbarie qu'a été le goulag, je vous propose une chanson de Dina Vierny qui s'appelle « Bodaïbo ». Dina Vierny, ça a été la fameuse muse de Mayol, qui a été le modèle d'un grand nombre de ses sculptures, qui a fondé aussi le très beau musée qui est aujourd'hui rue de Grenelle. Dina Vierny était aussi une chanteuse originaire de Roumanie et elle interprète ici en russe Bodaïbo. Si vous voulez bien, Eric Oesli, vous me traduirez après ce qu'elle chante.
Volontiers.
На короткий срок снова свидится нам с тобою, не дай Бог, а меня в товарный и на восток, и на прииски в Бодайбо. Все закончено, смолкнут стук колес, шпалы кончились, рельсов нет. Эх, бы взвыть сейчас, жалко нету слез, слезы кончились на земле. Здесь леса кругом вьются по ветру, синего кругом, как не выть, а позади 7000 километров, а впереди 7 лет синевы.
Alors, Eric Oesli, traduction.
Alors, elle raconte en fait la dernière rencontre avant de monter dans un train qui va l'amener justement vers les camps. Et le déroulement de ces trains, on sent bien dans le rythme, hein, le mouvement des roues, les traverses qui passent. Et puis jusqu'au terme du voyage, hein, l'extrait s'arrête au moment où le train stoppe.
Et vous voulez bien nous dire ce que sont les derniers vers ?
Oui, tout à fait. Ici, les forêts ploient sous le vent. Tout autour seulement les neiges, tu as beau hurler, derrière, 7000 kilomètres, devant, 7 ans de brume à tirer.
Le goulag a perdu de sa brutalité avec la mort de Staline, et même assez brutalement, semble-t-il. Vous faites de temps en temps des recherches quasi archéologiques sur les traces du goulag dans cette Sibérie que nous considérons ce matin, Eric Oesli.
Oui, j'y travaille avec mes étudiants parce que je pense qu'effectivement c'est un point important de l'histoire planétaire du XXe siècle. et que finalement, nous devons encore, si je peux dire, profiter des derniers vestiges qui s'y trouvent. Hein. Ils sont devenus assez rares, forcément, puisque...
La nature les recouvre ?
La nature les digère même, et parfois les villes, puisque la plupart de ces camps, quand même, se trouvaient autour d'agglomérations, de futures agglomérations, qui ont finalement cru et ont dépassé un peu les limites des camps. Donc, ils ont physiquement disparu, mais il en reste quelques éléments importants. Et avec mes étudiants, nous travaillons sur ces vestiges pour une sorte effectivement d'exercice d'archéologie industrielle, à la fois avec des futurs ingénieurs sur comment est-ce qu'on construisait les chemins de fer, comment est-ce qu'on construisait les remblais sur le permafrost, quelle était la systématique, l'organisation des chantiers. On y découvre beaucoup d'éléments intéressants sur finalement la débrouillardise, si je peux dire, des responsables de chantiers qui n'ont en fait pas réellement de véritables plans, qui sont pressés d'avancer le plus vite possible pour atteindre les objectifs et qui utilisent à cette fin, bien sûr, la main-d'œuvre d'esclaves, qui est celle du goulag.
Dès le moment même de la mort de Staline, on a le sentiment que tout ça s'arrête.
Oui, tout à fait. La mort de Staline va être une étape très importante parce qu'elle, à l'intérieur même du régime, elle va libérer un certain nombre d'observations et de remarques venant des responsables du goulag qui ont compris depuis des années déjà que ce système n'est simplement pas rentable, qu'il n'est pas rationnel et que le goulag est condamné par lui-même finalement à s'effondrer.
Donc le ressort humanitaire compte moins que le ressort du...
Tout à fait. En réalité, on imagine volontiers cette fin du goulag par une sorte de désir de respect des principes humanitaires, et en réalité c'est pas du tout ça. Le goulag s'effondre sur lui-même après la mort de Staline, parce que simplement les camps ne sont plus gérables, ils ne sont plus gérables d'un point de vue économique, mais même d'un point de vue, on va dire, de sécurité, d'organisation. On va voir des rébellions formidables, et j'ai pris la peine de les raconter un peu plus en détail, parce que je pense que là aussi c'est une page trop méconnue. Ces émeutes de plusieurs semaines, de dizaines de milliers de prisonniers qui se soulèvent dans les camps pour demander finalement qu'on les traite comme on aurait dû traiter le prolétariat.
Et qui sont naturellement écrasés dans le sang.
Qui sont écrasés dans le sang, mais qui vont conduire à la fin du système néanmoins, parce qu'il n'est simplement plus gérable. Et donc, dans les semaines et les mois qui suivent, on va abolir le système même du goulag.
Et vous qui allez très souvent aujourd'hui en Russie, pour les raisons notamment que vous venez de nous dire, vous avez le sentiment que cette mémoire du goulag, et plus largement cette obsession onirique de la Sibérie, continue de peser sur la population de la Russie du côté occidental ?
Alors on a à la fois une sorte d'aspiration au développement de la Sibérie qui est encore très présente et je dirais retrouve aussi un petit peu de son lustre dans la Russie d'aujourd'hui, parce que même jusqu'au niveau supérieur de l'État, on voit bien que le potentiel de la Sibérie, à la fois en ressources mais aussi en accès au Pacifique, hein, cette nouvelle région économique du monde qu'est l'Extrême-Orient, est très essentielle. Et puis vous avez raison de mettre ça en parallèle, parce que en même temps cette mémoire est très douloureuse. On peut difficilement parler de l'histoire sibérienne récente sans effectivement s'apesantir un peu sur le goulag. Et c'est une mémoire extrêmement douloureuse. Lorsque vous parlez avec les gens qui habitent les villes, les grandes villes nées du goulag, comme Vorkuta, comme Norilsk, dans le grand nord arctique sibérien, c'est un peu comme si vous interrogiez une jeune femme qui serait née du viol de sa mère. Je prends cet équivalent parce que, en réalité, vous devez la vie à un acte de violence. Et donc, vous êtes très partagé entre le fait que vous êtes là, vous êtes issu de cette histoire, et en même temps, c'est extrêmement douloureux à remuer. Et dans ces villes-là, cette mémoire douloureuse emprunt encore tout le discours. Là, on trouve beaucoup de gens extraordinaires, et je crois qu'il faut le rappeler, il y a des gens qui travaillent à cette mémoire, qui travaillent à essayer de retracer l'inventaire, ne serait-ce que de tous les noms de ceux qui ont passé par ces camps. Travail formidable qu'on retrouve même dans des villages éloignés, des sortes de volontaires, j'en ai croisé des dizaines, qui s'emploient à défendre cette mémoire. Et on peut les trouver, y compris dans la police, hein, c'est pas toujours dans les milieux qu'on imagine. Il y a une vraie volonté dans la population sibérienne de respecter et de valoriser cette terrible tragédie.
Et on recueille des témoignages plus que jamais de ceux qui racontent ce qu'ils ont vécu. Je pense par exemple à celui-ci en français, ce témoignage de Dimitri Sesman, cet extrait des Mémoires du siècle de René Elkaïm Bollinger, le 9 février 1992.
C'était une main-d'œuvre d'esclaves. Oh, moi, j'ai fait des tas de choses très utiles à la société. D'abord, j'ai abattu des arbres dans l'Oural. Et puis ensuite, sur les bords de la mer Blanche, au-delà du cercle polaire, on faisait des travaux de terrassement. Vous savez, sur un sol complètement gelé, vous donnez un coup de pioche et vous faites sauter un petit morceau de terre comme ça. Et vous devez en faire en une journée 1 mètre cube ou 3 mètres cubes, ce qui est parfaitement irréalisable. Alors, vous crevez à le faire. Donc, il y a eu cette main-d'œuvre servile, n'est-ce pas ? Comment faire venir des milliers de gens dans un coin perdu de Sibérie pour construire un combinat métallurgique ? Eh bien, voilà, on fait venir les paysans qui n'ont pas voulu de la collectivisation, qui n'ont pas voulu abandonner leurs terres. On les met dans des wagons à bestiaux, on les emmène là-bas.
Pendant les 2 ans que vous avez passé dans ces camps, qu'est-ce qui a été, au fond, le plus difficile ?
De n'avoir pas à manger. Une des choses que j'ai apprises, c'est d'être sceptique quand quelqu'un me dit « Il y a des souffrances morales bien plus graves que les pires souffrances physiques. » Ce n'est pas vrai. Quand vous avez faim 24 heures sur 24, vous n'avez pas le loisir de réfléchir aux droits de l'homme et au fait que la justice a été bafouée quand on vous a mis en prison. Vous songez « Où pourrais-je me procurer quelque chose de mangeable ?» Et rien d'autre.
Une sorte de pudeur et de force en même temps dans ce témoignage, Eric Oesli.
Qui souligne aussi, je trouve, cet élément central qui est effectivement la faim dans les camps, puisque tout le mécanisme fondamental des camps du goulag reposait précisément sur cet échange entre travail et nourriture. Tu travailles, tu fais la norme, tu auras de quoi manger, tu n'atteins pas la norme demandée, tu n'auras que la moitié de ta ration, et donc tu es encore plus épuisé le lendemain. C'est ce mécanisme le plus dur, le plus cruel dans le système du goulag qui marque effectivement l'importance de la finalité de ce système, c'est-à-dire le travail. Hein, on n'est pas du tout dans des camps d'extermination, on est dans du bagne. Et le mécanisme pour y parvenir avec la faim. Et un petit point aussi intéressant, c'est important que j'entends ce témoignage assez bouleversant, c'est de se souvenir que finalement, on a arrêté durant la période soviétique des gens, en réalité, lorsqu'on avait besoin de main-d'œuvre. Donc on n'est pas dans un système où on envoie des gens en punition. On arrête des gens quand on a besoin d'eux. Et par exemple, dans des périodes comme l'après-guerre, alors même que l'URSS est à genoux, qu'elle a perdu une génération d'hommes, on va aller arrêter beaucoup de gens, d'innocents, y compris des femmes, parce qu'on a besoin d'eux sur les grands chantiers du Nord.
C'est là que s'entrelace la part de rêve, conquérir l'Orient, et la part de cauchemar. Par quels moyens ?
C'est ça, c'est cette double nature de l'histoire sibérienne qui fait précisément encore aujourd'hui sa richesse et qui sans doute aussi a été une des raisons pour lesquelles on s'y est peu intéressé.
Merci en tout cas de vous y être intéressé, Eric Oesli, pour notre satisfaction, pour notre bonheur intellectuel, puisque vous avez donné ce grand livre que j'ai évoqué qui s'appelle « L'épopée sibérienne, la Russie à la conquête de la Sibérie, à la conquête de la Sibérie et du Grand Nord », publié aux éditions des Sirtes cette année même, en 2018. En 2006, il y a déjà 12 ans, un autre livre important sous votre signature est paru sous le titre « À la conquête du Caucase, épopée géopolitique et guerre d'influence », déjà aux éditions des Sirtes. Vous pourrez, mes chers auditeurs, trouver une bibliographie plus complète sur notre site, vous le savez, avec les références et documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, nous irons au théâtre, dans la perspective du Festival d'Avignon. Nous considérerons l'histoire du théâtre sous l'angle des chahuts et des scandales, souvent politiques, qui l'ont heurté, qui l'ont parfois bouleversé. Mon invité sera Martial Poisson. Et puis à partir de lundi, vous pourrez retrouver notre cher ami Emmanuel Laurentin dans son émission La Fabrique de l'Histoire, qui s'intéressera toute la semaine au thème de la fabrique de l'information, avec lundi un invité prestigieux qui est venu souvent à ce micro, je veux dire le professeur américain Robert Darnton. Eh bien, c'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur et aussi Jeanne Guéroux, une émission réalisée par Anne Kobilac, avec à la prise de son Théo Gomard, à la discothèque Anne Rouvillain, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Samantha Schmitt. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Nocrente pour son émission Affaires étrangères.